إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous avons vu hier qu'il incombe aux musulmans, de manière générale tout au long de l'année, d'être assidus à ces cinq prières quotidiennes, et d'autant plus durant le mois de Ramadan. Et il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, il a légiféré pour nous des adorations diverses, et ce, afin que l'on puisse se rapprocher de lui en différents moments de la journée et de la nuit. Et on compte parmi ces adorations ces cinq prières obligatoires. Et viennent s'ajouter à celles-ci des prières qui nous sont recommandées et qui viennent les compléter. D'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Au jour de la résurrection, la première chose sur laquelle le serviteur musulman sera jugé est la prière obligatoire. » Ces cinq prières. Il dit ensuite sallallahu alayhi wa sallam « On regardera si elle est complète. » Sinon, il sera dit « Regardez s'il faisait des prières surérogatoires. » S'il faisait des prières surérogatoires, alors sa prière obligatoire sera complétée par ses prières surérogatoires. Puis on fera de la même manière pour le restant de ses obligations. Et ce hadith a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. On voit donc à travers celui-ci l'importance pour le musulman de ne pas se contenter d'accomplir seulement ses obligations. Mais il convient plutôt d'y ajouter des œuvres en plus, des œuvres qui nous sont recommandées. Et ce, car nul parmi nous n'est à l'abri des manquements dans ses prières. Il se peut que certaines prières ne soient pas bien accomplies. Il se peut que d'autres prières ne soient pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite. Donc si tu sais cela, il te convient alors de multiplier les œuvres de bien, de multiplier les prières, en étant assidu à tes prières obligatoires et en les faisant suivre de prières surérogatoires, tout en veillant à respecter en cela les conditions d'acceptation des œuvres, qui, comme vous le savez, sont la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que tu lui voues exclusivement ses prières et que tu ne recherches rien d'autre à travers cela si ce n'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa récompense. Et la deuxième condition, c'est que tu accomplisses ces prières de manière conforme à ce qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, tu espères d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de toi ses œuvres. Et parmi les prières qui sont fortement recommandées, il y a ces prières que l'on appelle les rawatib, qui sont les prières surérogatoires qui sont accomplies en permanence et liées aux prières obligatoires. Et celles-ci sont au nombre de 12 unités par jour. 4 unités avant la prière du dhuhr, que tu accomplis en faisant 2 unités, puis tu fais le teshahud et tu salues, puis tu refais à nouveau 2 unités. Ou alors il t'est permis de les accomplir en 4 unités d'un seul coup avec un seul teshahud et en faisant les salutations qu'à la dernière unité. Ensuite, après le dhuhr, après avoir fait ta prière obligatoire du dhuhr, tu accomplis encore 2 autres unités de prière surérogatoire, ce qui fait un nombre de 6 unités qui sont liées à la prière du dhuhr. Ensuite, après cela, après la prière du maghrib, tu accompliras 2 autres unités. Après la prière de l'Isha, tu accompliras encore 2 autres unités. Puis, avant la prière del Fajr, tu accomplis 2 unités qui sont la sunna du Fajr. Et ceci fait un total de 12 unités qui sont surérogatoires et qui sont liées à tes prières obligatoires. Habiba, radiyallahu ta'ala anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle rapporte l'avoir entendu dire « Il n'y a pas un serviteur musulman qui prie chaque jour 12 unités de prière surérogatoires en dehors des obligatoires sans qu'Allah ne lui construise une maison au paradis. » Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. On voit donc à travers cela que ces quelques unités de prière contiennent un mérite qu'il ne convient pas de négliger. Également parmi les prières recommandées, il y a bien sûr la prière de nuit, qui est le sujet de notre assise d'aujourd'hui. Et ceux qui accomplissent cette prière ont été loués par Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre. Allah subhanahu wa ta'ala a dit en décrivant les caractéristiques de ses serviteurs pieux. Il a mentionné certaines de leurs caractéristiques, puis il dit à leur sujet « وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا » Ceux qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. C'est-à-dire qu'ils multiplient les prières de nuit. Ces prières qu'ils accomplissent sincèrement et avec humilité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans son noble livre « تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ » Ils s'arrachent de leur lit. C'est-à-dire qu'ils quittent leur lit dans lequel ils sont confortablement installés. Pourquoi ils quittent ces lits? Pour une chose qu'ils aiment encore plus et qui est la prière de nuit qui va leur permettre d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala « يَدْعُونَ رَبَّهُمْ » pour invoquer leur Seigneur, c'est-à-dire pour l'implorer, pour lui demander les biens de ce bas-monde et de l'au-delà. « خَوْفًا وَطَمَعًا » par crainte et espoir. C'est-à-dire qu'ils craignent le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, ils espèrent la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils craignent que leurs œuvres soient rejetées. Et en même temps, ils espèrent que leurs œuvres soient acceptées. Et c'est ainsi qu'est le croyant. Il réunit sans cesse entre ces deux adorations qui sont la peur et l'espoir. La peur que nos œuvres ne soient pas acceptées et l'espoir que celles-ci soient acceptées. La peur du châtiment et l'espoir de la récompense. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Et ils font largesse de ce que nous leur attribuons, c'est-à-dire qu'ils font des aumônes. Ensuite, il dit فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en récompense de leurs œuvres, en récompense de cette prière nocturne, il a préparé pour eux une réjouissance pour les yeux, de laquelle aucun être n'a connaissance. Donc de la même manière que ses serviteurs ont prié la nuit, qu'ils ont fait cette prière de manière secrète, à l'abri des regards, car en général la prière de nuit est accomplie secrètement. Personne n'est au courant de qui prie la nuit et qui ne prie pas. Donc cette prière est accomplie secrètement. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la récompense de leurs œuvres qu'elles soient aussi cachées. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans le hadith al-Qudsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit selon le sens rapproché « J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce que le cœur d'un homme ne peut imaginer, c'est-à-dire au paradis. » On voit donc que ceci fait partie de la récompense de quoi? De ceux qui se lèvent la nuit pour prier, qui s'arrachent de leur nid, préférant cette prière à la douceur du sommeil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la prière de nuit est la meilleure des prières après la prière obligatoire. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des prières après celle qui est obligatoire est la prière de nuit. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Et il nous a informé également que la prière de nuit, elle fait partie des causes te permettant d'entrer au paradis en paix. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ô vous les gens, propagez le salam, c'est-à-dire passez-vous le salam mutuellement entre vous. Offrez la nourriture, entretenez les liens de parenté et priez la nuit lorsque les gens dorment, vous entrerez alors au paradis en paix. On voit donc à travers ces textes que la prière de nuit, elle a un mérite immense, et ce tout au long de l'année. Il convient donc aux musulmans de ne pas négliger cette prière. Et on va voir, incha'Allah ta'ala, que cette prière, elle a un mérite plus particulier durant le mois de Ramadan. Et entre dans la prière de nuit ce que l'on appelle la prière du witr. Et c'est la prière d'un nombre d'unités impaires qui vient clôturer la prière de nuit. Et celle-ci est composée de 1 à 11 unités. Et il est possible de l'accomplir de différentes manières. Donc on va voir ici, incha'Allah ta'ala, les différentes manières d'accomplir le witr, ou de manière plus générale, d'accomplir la prière de nuit. Donc, ceci nécessite de vous une certaine attention, car comme vous allez le voir, il y a plusieurs manières différentes d'accomplir cette prière. Donc il est possible d'accomplir le witr d'une seule unité de prière. Et ce, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, « Quiconque souhaite accomplir le witr d'une seule unité, qu'il le fasse. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i, rahimahumallahu ta'ala. Il est aussi possible de l'accomplir en trois unités. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Quiconque souhaite accomplir le witr en trois unités, qu'il le fasse. » Et ce hadith est également rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i, rahimahumallahu ta'ala. Et lorsque tu accomplis cette prière en trois unités, alors il y a pour cela deux manières de faire. Al-Tahawi, rahimahullah, rapporte que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, a fait le witr en trois unités réunies. C'est-à-dire qu'elle a fait trois unités en ne faisant les salutations qu'à la dernière unité. Et également, il est possible de faire cette prière en faisant deux unités, puis en faisant le tashahhud, en faisant les salutations, puis après cela de faire une troisième unité, que tu fais seul. Et cela est permis d'après ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari, rahimahullah, de Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, qui prie ainsi. Donc lorsque tu veux faire le witr en trois unités, il y a deux manières de faire. Ou bien tu accomplis ces trois unités d'un seul coup, en faisant qu'un seul tashahhud et une seule fois les salutations, ou alors tu fais deux unités, tu fais le tashahhud et tu fais les salutations, puis après, tu accomplis une seule unité qui est la troisième. Et il est aussi possible d'accomplir le witr en cinq unités de prière. Et ce, en ne faisant les salutations qu'à la dernière unité. C'est-à-dire que tu fais ces cinq unités d'un seul coup. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Quiconque souhaite accomplir le witr en cinq unités alors qu'il le fasse. » Et ceci est également rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i, rahimahumallahu ta'ala. Et Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, rapportent que Aïcha, radiyallahu anha, a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit et faisait le witr en cinq unités, sans s'asseoir si ce n'est à la dernière. » C'est-à-dire qu'il faisait ces cinq unités d'un seul coup et ne s'asseyait qu'à la dernière unité pour faire le tashahhud, puis pour faire les salutations. Et il est aussi possible de faire le witr en sept unités de prière. Ceci est encore une autre manière. Et ce, d'après la parole d'Umm Salama, radiyallahu ta'ala anha, qui a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le witr en sept ou cinq unités, sans les séparer par une salutation ou une parole. » Et ceci est rapporté par Ahmed, An-Nasa'i et Ibn Majah, rahimahumallahu ta'ala. Donc il faisait sept unités de prière d'un seul coup, en ne s'asseyant pour le tashahhud, et en faisant les salutations qu'à la dernière unité. Et il est aussi possible de faire le witr en neuf unités. Et ce, de la manière suivante. Tu accomplis huit unités à la suite, c'est-à-dire sans t'asseoir, en ne faisant ni tashahhud, ni salutation. Une fois la huitième unité terminée, alors tu t'assois pour faire le tashahhud. Puis après celui-ci, tu te lèves sans faire les salutations. Et tu accomplis la neuvième unité. Puis tu t'assois, tu refais le tashahhud et fais les salutations finales. Et cette façon de faire est rapportée par l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, d'après notre mère, Aïcha, radiyallahu ta'ala anha. Enfin, il est possible d'accomplir le witr en onze unités, comme cela est connu pour la prière de nuit. Et ce, de deux manières. La première, qui est la plus connue, c'est que tu accomplisses les unités deux par deux, comme les imams le font dans les mosquées pour le tarawih. Tu accomplis donc cette prière en faisant deux unités. Tu fais le tashahhud et tu fais les salutations, puis tu refais deux unités, tu fais le tashahhud et tu fais les salutations, et ainsi de suite. Et après ces dix unités, tu clôtures par une unité de prière que tu fais seul. Et ceci est ce qu'a rapporté Aïcha radiyallahu ta'ala anha qui a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait entre les prières d'Al-Isha et du Fajr, 11 unités, c'est-à-dire durant la nuit. Il faisait les salutations, toutes les deux unités, et clôturait par une unité. » Ceci est donc la première manière de faire, qui est comme on a dit la plus connue. Et la deuxième manière, c'est que tu accomplisses 4 unités en les faisant d'un seul coup. En ne faisant le tashahhud et les salutations qu'à la quatrième. Tu fais 4 unités, après avoir terminé la quatrième, tu t'assois, tu fais le tashahhud, puis tu fais les salutations finales. Ensuite, après cela, tu refais 4 unités de la même manière. Et après celle-ci, tu termines avec 3 unités que tu accomplis aussi d'un seul coup avec un seul tashahhud et les salutations. Et ceci est aussi rapporté par notre mère, Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, comme l'ont rapporté Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. On voit donc à travers cela qu'il y a de multiples manières d'accomplir la prière du witr. Et celles-ci sont toutes légiférées, comme vous l'avez vu à travers ces hadiths. Et ces manières, elles peuvent être méconnues par beaucoup de gens, car en réalité, elles ne conviennent que pour celui qui prie seul, ou alors celui qui va diriger la prière à un petit groupe de personnes qui acceptent et qui souhaitent prier de cette façon. Mais la base, comme vous le voyez dans les mosquées, c'est qu'il est préférable, pour les imams, de saluer toutes les deux unités, et ce, afin de ne pas rendre la prière difficile pour les gens. D'autant plus qu'il n'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ait accompli la prière de cette manière en la dirigeant à ses compagnons. Mais il faisait cela, comme cela est rapporté de lui, lorsqu'il priait seul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith « Quiconque parmi vous dirige la prière pour les gens » il s'adresse donc ici aux imams, ceux qui dirigent la prière « alors qu'il soit concis, car il y a derrière lui la personne âgée, le faible et celui qui a des choses à faire. » Et dans une autre version, il a aussi dit sallallahu alayhi wa sallam « et s'il prie seul, alors qu'il prie comme il veut. » Donc, si tu es amené à diriger la prière à ta famille par exemple, tu dois prendre en considération l'état de chacun, d'autant plus s'il y a des personnes malades ou des personnes âgées qui prient derrière toi. Et comme on a dit, la prière de nuit, elle est légiférée de cette manière tout au long de l'année. Mais celle-ci a un mérite particulier durant le mois de Ramadan, et elle se distingue de la prière de nuit accomplie en d'autres mois. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Quiconque accomplit la prière de nuit durant Ramadan avec foi et en espérant la récompense, alors ses péchés passés lui seront pardonnés. » Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. On voit donc que cette prière durant le mois de Ramadan, elle a une particularité, un mérite immense que nul parmi nous ne doit laisser lui échapper, qui est le fait qu'elle te permettra, bi-idhnillah, d'obtenir le pardon de tes péchés passés. Et qui parmi nous ne souhaite pas voir ses péchés pardonnés? Il n'y a pas de doute que ceci est notre objectif à tous, de nous faire expier nos péchés. Toutefois, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dans ce hadith émis deux conditions. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque accomplit la prière de nuit durant Ramadan, avec foi, c'est la première condition, et en espérant la récompense. Il est donc important ici pour nous de comprendre le sens de sa parole afin de pouvoir réaliser ces deux conditions émises par le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de nous voir pardonner nos péchés passés. Donc sa parole avec foi, elle signifie le fait que tu accomplis cette prière en ayant foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en ayant foi en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé comme récompense pour ceux qui accomplissent la prière de nuit. Et sa parole, en espérant la récompense, elle signifie que ce qui te pousse à faire cette prière, c'est seulement la recherche de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu n'accomplis pas cette prière par ostentation, ou par recherche de bienville de ce bas monde, ou encore pour qu'on dise de toi que, masha'Allah, tu accomplis de longues prières, que tu récites bien, et ainsi de suite. Tout ceci fait partie des causes qui pourraient annuler ton œuvre. Mais tu dois accomplir cette prière seulement en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu pries en lui vouant cette prière à lui exclusivement, en dehors de tout autre que lui. Et tu ne recherches rien d'autre à travers cette prière, si ce n'est qu'obtenir la satisfaction et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il convient à chacun d'entre nous de donner de l'importance à cette prière, et d'être assidu à cette prière durant chaque nuit du mois de Ramadan, et ce, comme on a dit, en recherchant à obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prière de nuit durant le mois de Ramadan, comme vous le savez, elle est appelée prière du Tarawih. Et elle a été nommée ainsi, car les gens avaient pour habitude de la prolonger longuement, c'est-à-dire qu'ils faisaient de longues unités de prière dans lesquelles ils récitaient longuement le Coran, et dans lesquelles ils faisaient de longues inclinations et de longues prosternations. Puis dès qu'ils terminaient quatre unités, alors ils faisaient une petite pause. En arabe, istarahu. C'est pour cela qu'elle est appelée tarawih. Car ils faisaient quatre unités, puis ils faisaient une légère pause, ensuite ils refaisaient quatre unités, puis ils faisaient une légère pause, et ensuite ils faisaient les trois dernières unités. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le premier à avoir accompli la prière du tarawih en groupe à la mosquée. Et ce n'est pas, comme certains le pensent, une chose qui a été nouvellement instaurée dans notre noble religion. Mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam le premier à avoir accompli cette prière. Et après cela, il l'a délaissée. Pourquoi l'a-t-il délaissée? Par peur qu'elle devienne obligatoire pour sa communauté. On voit à travers cela la bienveillance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté. Al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala ont rapporté, d'après notre mère Aisha radiyallahu ta'ala anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié une nuit à la mosquée et les gens ont prié avec lui. Il fit ensuite la même chose le lendemain et les gens étaient alors plus nombreux. Ils se sont ensuite réunis la troisième ou la quatrième nuit, mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti à eux. Lorsqu'est venu le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « J'ai vu ce que vous avez fait, c'est-à-dire que vous êtes venus, que vous vous êtes réunis et que vous m'attendiez pour prier. Et rien ne m'a empêché de venir à vous, si ce n'est la crainte qu'elle devienne obligatoire pour vous, et ce, durant Ramadan. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc légiféré la tenue de cette prière en groupe dans les mosquées. Et la seule raison pour laquelle il l'a délaissée par la suite, c'est la crainte qu'elle devienne obligatoire. Et concernant le nombre d'unités de cette prière, c'est-à-dire de la prière de Tarawih, en combien d'unités convient-il de l'accomplir? Les pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, ont divergé concernant cette question. Certains ont dit que cette prière est de 41 unités. D'autres ont mentionné le nombre de 39. D'autres, 29. D'autres ont dit 23. D'autres, 19. D'autres, 13. Et d'autres, 11 unités. Et l'avis le plus juste parmi ces différents avis est que cette prière est de 11 unités. Et ce comme le rapporte Al-Bukhari et Muslim, rahimahumullahu ta'ala, d'après Aisha, radiyallahu ta'ala anha, qui fut interrogée au sujet de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant Ramadan. Elle répondit alors, il ne faisait pas plus de 11 unités durant Ramadan ou en dehors de celui-ci. C'est-à-dire que la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam était de 11 unités, que ce soit durant le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan. Et l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala, a rapporté, d'après Sa'ib ibn Yazid, qu'il a dit, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, a ordonné Ubay ibn Ka'b et Tamim al-Dari de prier pour les gens 11 unités. Et ce lorsqu'il a vu que durant le mois de Ramadan, les gens se réunissaient en différents groupes pour prier. Alors Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, a restauré ce qu'avait légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et a réuni les gens pour cette prière derrière un seul et même imam. Et il faisait partie de leur habitude de prononcer longuement cette prière. En effet, Sa'ib ibn Yazid, radiyallahu ta'ala anhu, a dit « Le lecteur récitait des centaines de versets, en une unité, au point que nous nous maintenions à des bâtons à cause de la longueur de la station debout, tellement la prière était longue. » Quant aux efforts du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses longues stations debout en prière de nuit, alors ceci est connu de tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait si longtemps debout en prière que ses pieds enflaient et se fendillaient. Et il disait sallallahu alayhi wa sallam pour justifier cela, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Et ce lorsqu'on lui a dit, ô messager d'Allah, tu fais cela alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés passés et tes péchés futurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Allahu Akbar. Telle était la prière de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que ses péchés étaient pardonnés. Alors que dire de nous qui ne connaissons pas la réalité de notre situation? Il n'y a pas de doute que nous devons multiplier les efforts afin d'obtenir le mérite de cette prière et espérer en cela le pardon et l'expiation de nos péchés. Et on voit à travers ces textes que leur prière était différente de la prière de beaucoup de gens aujourd'hui. En effet, pour ceux qui prient dans différentes mosquées, on observe certains imams qui prient à une grande vitesse, sans aucune quiétude et sans aucune sérénité, à tel point que certains ont l'impression de ne pas avoir écouté la récitation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, tellement leur prière est rapide. Alors que comme vous le voyez, nos pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, et à leur tête le prophète sallallahu alayhi wa sallam priaient de longues prières. Il est rapporté qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il priait la nuit, a récité en une seule unité de prière Sourate al-Baqarah, puis Sourate al-Nisa, puis Sourate Ali Imran. Il a récité ces trois sourates qui sont les trois sourates les plus longues du Coran, en une seule unité de prière. Ensuite, il s'est incliné, sallallahu alayhi wa sallam, et il est resté en inclinaison presque aussi longtemps qu'il était resté en station debout pour réciter le Coran. Puis il s'est relevé et resté dans la station debout qui suit l'inclinaison aussi longtemps qu'il était resté incliné. Puis il s'est prosterné, sallallahu alayhi wa sallam, et est resté en prosternation aussi longtemps qu'il était resté incliné. Puis il s'est assis, l'assise entre les deux prosternations, et il est resté dans cette assise aussi longtemps qu'il était resté prosterné. Telle était la prière de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non pas comme le font beaucoup de gens aujourd'hui, qui s'empressent lorsqu'ils prient. Récitent quelques versets, ils s'inclinent, se relèvent, se prosternent, sans faire preuve de quiétude. Tu dois te rappeler que lorsque tu accomplis cette prière, à commencer par la prière obligatoire, mais aussi cette prière de nuit, que tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala, que tu t'adresses à ton Seigneur, tu dois donc faire preuve d'humilité dans cette prière. Ne pas t'empresser. Savoir que lorsque tu es en prière, tu es en train d'accomplir une des choses qui te sera profitable bi'idhnillahi ta'ala dans l'au-delà. C'est une des œuvres que tu retrouveras lorsque tu seras seul dans ta tombe. Car comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique que lorsque la personne meurt, trois choses le suivent. Deux reviennent et une seule reste avec lui. Ses œuvres, sa famille et ses biens le suivent. Puis ensuite, sa famille et ses biens repartent. Et ses œuvres restent auprès de lui. Donc tu ne dois pas te laisser distraire par les biens de ce bas monde au détriment de cette prière. Mais tu dois faire des efforts dans celle-ci. Multiplier les efforts dans cette prière. Faire preuve de concentration et de quiétude et d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et te dire que rien n'est plus important dans ce bas monde que ces actions que tu accomplis pour te rapprocher de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses à savoir au sujet de cette prière, il y a le fait que celui qui a accompli cette prière entièrement avec l'imam, alors il a une récompense immense. En effet, il est rapporté d'Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, c'est-à-dire qu'il termine ses 11 unités de prière de nuit, salat tarawih, il lui est inscrit la nuit complète en prière. » Allahu Akbar. Ce hadith est authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Si tu patientes derrière l'imam durant ces 11 unités, que tu les accomplis entièrement derrière lui, que tu restes avec lui jusqu'à ce qu'il termine, il t'est inscrit la nuit complète en prière, c'est-à-dire comme si tu étais resté de la prière de l'Aïcha jusqu'à la prière de l'Fajr en train de prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vois donc que c'est une récompense qui n'est pas à négliger. Bien sûr, la base de ce hadith, elle concerne la prière en groupe à la mosquée. Mais la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Et comme l'ont mentionné les gens de science, il est donc à espérer que cette récompense soit accordée à celui qui prie en groupe derrière celui qui lui dirige la prière dans sa maison. Et on voit à travers ce hadith l'erreur que font certaines personnes qui accomplissent seulement quelques unités de cette prière. Il va prier derrière celui qui dirige 2 ou 4 unités et ensuite il va partir et terminer tout seul et faire le witr seul ou en fin de nuit ou d'une autre manière. Et en faisant cela, il se prive de la récompense mentionnée dans ce hadith, le fait que la nuit complète en prière lui soit inscrite. Et il se peut que certains vont dire qu'ils sont fatigués, qu'ils n'arrivent pas à patienter durant les 11 unités. Mais il faut savoir qu'il est très simple de remédier à cela. Si tu es fatigué, que tu n'arrives pas à tenir la station debout durant ces 11 unités, il faut que tu saches qu'il est alors permis pour toi d'accomplir cette prière, qui est une prière surérogatoire, qui n'est pas une prière obligatoire. Il t'est donc permis de l'accomplir en te tenant assis. Tu fais le takbir, tu t'assois si tu en as besoin, et tu pries derrière celui qui te dirigera cette prière. Si tu n'es plus fatigué et que tu retrouves la force, alors tu te lèves et tu continues ta prière debout. Et il n'y a pas de mal en cela, incha'Allah ta'ala. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière de nuit de 3 manières. Ou alors il l'accomplissait complètement debout. Ou alors il l'accomplissait en partie debout et en partie assis. Ou alors il l'accomplissait complètement assis. Et ceci est permis pour les prières surérogatoires. Car la station debout, c'est un pilier pour les prières obligatoires, les 5 prières. Quant aux prières surérogatoires, il est permis de les accomplir assis. Et nombre de personnes pensent que sous prétexte que les mosquées sont fermées, alors il ne sera pas possible de profiter de ce mois de Ramadan, on ne pourra pas faire cette prière, et ainsi de suite. Et il n'y a pas de doute que cette pensée est en réalité une erreur. Au contraire, tu dois savoir que se présente à toi une occasion immense de te réunir avec ta famille autour de cette noble adoration qui est la prière de nuit. Et il n'y a pas de doute que si les membres du foyer s'entraident dans cela, cela fait partie des plus grandes formes d'entraide dans le bien et la piété. Se soumettant ainsi à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit وتعاونوا على البر والتقوى. Et entraidez-vous dans le bien et la piété. Et ceci est une des meilleures choses sur lesquelles peuvent se réunir les membres d'une famille. Qu'y a-t-il de meilleur que de te réunir avec ton épouse et tes enfants, ou avec tes parents et tes frères et sœurs, pour accomplir ensemble cette prière de nuit? Il n'y a pas de doute que ceci est une des meilleures occupations par lesquelles le musulman occupe son temps. Et le fait d'accomplir cette œuvre en famille, ceci est une grande cause pour consolider les liens entre les différents membres de cette famille. Et il est possible que certaines personnes disent « Oui, mais je ne connais pas beaucoup de Coran. Comment vais-je faire pour accomplir cette prière dans laquelle il est préférable de réciter longuement le Coran ou voire de le clôturer, de le lire en entier ?» La réponse, elle est très simple. Et elle se trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. « فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ » Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Récitez ce qui vous est possible du Coran. Si tu ne connais que quelques sourates, par exemple, quelques sourates de Juz'u Amma, rien ne t'empêche d'accomplir cette prière avec ces quelques sourates en les répartissant dans les différentes unités, ou même encore en les récitant à chaque fois dans chaque unité ou dans chaque prière. Il n'y a pas de mal en cela. Même si tu ne connais que la Fatiha et les trois dernières sourates du Coran, accomplis cette prière en t'humiliant devant Allah subhanahu wa ta'ala d'un cœur sincère et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Il se peut qu'une personne accomplisse une prière en ne récitant que la Fatiha et que sa récompense soit plus immense que celui qui a terminé le Coran en une seule nuit. Pourquoi? De par ce qui se trouve dans son cœur comme sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne dois pas regarder seulement le nombre, mais tu dois regarder la perfection de cette œuvre, qu'elle soit vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle soit conforme à ce qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tu ne méprises rien parmi les œuvres de bien. Aussi petite soit ton œuvre, sache que si tu es sincère et que tu l'accomplis conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors cette œuvre sera décuplée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a en cela une grande récompense. Donc tu récites ce que tu peux du Coran. Et si tu lis le Coran, que tu sais lire l'arabe, et que tu arrives à lire aisément le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il t'est permis, incha'Allah ta'ala, de prendre le mushaf en le posant sur un support devant toi, et de prier en lisant le Coran. Et ceci est rapporté de certains parmi nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Et il n'y a pas de mal en cela pour la prière de nuit, qui est une prière surrogatoire. Donc si tu souhaites clôturer la lecture du Coran durant ce mois, il t'est permis, si tu ne mémorises pas le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de lire à partir du mushaf. Tu le poses sur un support devant toi, puis tu récites ce que tu souhaites réciter, et tu ne fais comme mouvement que le fait de tourner la page en cas de nécessité. Et ceci fait partie des mouvements légers qui sont faits dans l'intérêt de la prière et qui ne sont donc pas interdits durant la prière. Et il n'y a pas de mal en cela, incha'Allah ta'ala. Et chacun fait, comme on a dit, en fonction de ses capacités. Mais le mieux est que tu ne délaisses pas cette prière et que tu fasses ces 11 unités en récitant ce qui t'est possible du Coran. Et tu ne dois pas être pris de lassitude en cela. Dis-toi que ce mois va très vite passer, que tu n'as que quelques nuits devant toi, et que cette occasion de te tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Ramadan, c'est une occasion qui peut-être ne se représentera jamais. En effet, ni toi ni moi, nous savons si nous serons encore vivants le Ramadan prochain. Donc, on ne doit pas laisser s'échapper cette occasion immense. Cette occasion par laquelle nous obtiendrons peut-être le pardon de nos péchés passés. Donc il convient à chacun d'entre nous de se préparer à multiplier les efforts durant ce mois et à s'éloigner de toute forme de distraction et de toute chose qui pourrait te distraire de cette prière. Car cette prière, elle fait partie, comme on a dit, des provisions que tu vas prendre pour l'au-delà. Tu ne dois donc pas te laisser distraire par des choses de ce bas monde au détriment de tes provisions de l'au-delà. Et pour revenir à la récitation, parmi les choses qui sont recommandées lors des trois dernières unités de cette prière, il y a le fait d'y réciter dans les trois dernières unités Surat al-A'la, puis dans l'avant-dernière Surat al-Kafirun, puis dans la dernière Surat al-Ikhlas, comme cela est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Également, parmi les questions que certains pourraient se poser, il y a la manière de se placer pour accomplir cette prière. Donc, si cette prière est accomplie par deux hommes, alors celui qui dirige la prière se tiendra à gauche et le deuxième se tiendra à sa droite, au même niveau que lui. Il n'a pas à se reculer, mais il se met au même niveau que lui. Et s'il y a une femme ou plus qui prie avec eux, alors elles se tiennent derrière eux. Et s'il y a trois hommes ou plus, alors l'imam se met devant, et les deux autres hommes, ou ceux qui sont en plus, se tiennent derrière eux. Et les femmes se tiennent derrière le rang des hommes. Et s'il n'y a que des femmes, et qu'elles souhaitent accomplir cette prière en commun, alors celle qui dirige la prière se tiendra au milieu du rang. Ceci est ce qu'ont mentionné les gens de science concernant l'emplacement des personnes lors de la prière en groupe. Enfin, pour terminer, j'aimerais simplement mentionner quelques causes qui peuvent nous aider à ne pas négliger cette prière. Parmi les causes, premièrement, il y a la connaissance de l'ensemble des mérites que l'on vient de mentionner. Et se rappeler, comme on a dit, que ceci est une occasion que le musulman ne doit pas laisser s'échapper. Également, parmi les causes, il y a le fait de ne pas exagérer dans la consommation de la nourriture et de la boisson au moment de la rupture du jeûne. Car ceci peut te pousser à la paresse. Et tu vas ressentir une certaine lourdeur qui peut-être te poussera à la paresse quant à l'accomplissement de cette prière de nuit. Également, parmi les causes, il y a le fait que durant la journée de jeûne, tu ne fasses pas des choses qui vont te fatiguer si celles-ci ne sont d'aucun intérêt. Mais durant cette journée, tu te concentres sur ce qui est profitable. Parmi tes affaires mondaines, comme la préparation du repas de la rupture ou autre chose parmi les occupations que la personne peut avoir et qui sont nécessaires, et principalement, durant le mois de Ramadan, surtout si tu as du temps libre, tu te consacres au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et principalement la lecture du Qur'an. Également, parmi les causes, il y a le fait, pour celui qui en a la possibilité, de faire une sieste durant la journée, afin de pouvoir se tenir debout longuement durant cette prière. Et enfin, parmi les causes qui sont importantes et qu'il ne faut pas négliger, il y a le fait de prendre garde de ne pas commettre des péchés durant la journée. Et ce, car les péchés que tu vas commettre, ils peuvent être une cause te privant de l'accomplissement de la prière de nuit. Il se peut que la personne souhaite accomplir cette prière, mais qu'à cause d'un péché qu'elle commet, elle se retrouve comme enchaînée et n'arrive pas à accomplir cette prière. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc comme on l'a mentionné hier, prends garde durant ton jeûne, comme durant tout au long de l'année, mais plus encore durant le mois de Ramadan, à t'éloigner de toute forme de péché, de préserver ta vue, de préserver ton ouïe, et de préserver ta langue, et de préserver l'ensemble des membres de ton corps de toutes sortes de péchés. Mais concentre-toi sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci était donc quelques questions liées à la prière de nuit, et plus particulièrement durant le mois de Ramadan. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous la prière durant ce mois. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à lui vouer durant ce mois nos œuvres exclusivement, et de nous aider à accomplir nos œuvres conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On a donc terminé ce séminaire par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel nous avons vu nombre de questions essentielles liées au mois de Ramadan, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces assises une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi ou du diable, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khayra.